Tout ce que je vais essayer de faire, c'est que les acteurs se méfient beaucoup de la réalité qu'ils pourraient proposer, d'une réalité ou de plusieurs réalités. Et comme on sait que la réalité est souvent mensongère, et d'approcher vraiment du réel, et de considérer encore une fois la scène comme une remise au monde du réel, déshabillée des réalités différentes que chacun peut vivre dans la vie. Jacob, dans Pasteur Ephraim, est vraiment à un endroit révolutionnaire, enfin absolument de remise en question totale et d'une audace et une pensée surtout chez Yann qui est tout le temps mise en action. C'est-à-dire que la pensée s'exprime, le verbe est là, enfin la parole est là et elle est mise en action. Elle n'est pas simplement que des mots comme ça qui en restent là. Et dans toute sa vie aussi, évidemment, il a tout le temps mis en action à chaque fois tout ce qu'il faisait. Donc ça, c'est très impressionnant. Moi, je me sens très petit à côté, mais quand j'ai lu Yann, j'avais l'impression que ça me correspondait absolument, que c'était ce que je voulais écrire, en fait, dans tous mes rêves, depuis que je suis adolescent. Et je crois qu'il y a une perpétuelle adolescence chez Yann. Que le cerveau n'arrête pas de se faire, même si on a 50 ans, et que le cerveau est constamment inachevé, que la pensée est tout le temps inachevée, que l'homme est chez lui est absolument constamment traversé par des pulsions adolescentes et des pulsions de la nature, quoi, qui le dépassent, qui quelquefois le amènent à la grâce, enfin réellement, un état de grâce qui dépasse notre enveloppe charnelle, quoi.
Si jamais un ange doit pénétrer dans cette chambre, les ailes repliées, il faudra bien qu'il ait une grande ressemblance avec le souteneur Tutain. À ce beau discours présenté avec calme par mon ami, je répondis seulement « Tu es très imprudent ». Il hocha la tête affirmativement. Je regrettai mes paroles et voulus les effacer. « Et le cheval à bascule, comment est-il entré ici ?»« Je l'ai acheté, » dit Tutain, après avoir trouvé Buyana plusieurs fois les yeux baignés de larmes. C'est son seul amour. Elle est capable d'un amour sincère. Certains soirs, lorsqu'elle monte ce cheval, j'ai l'impression que les yeux en verre se réveillent et scintillent, vivants comme les étoiles au ciel, la nuit. Cela me transporte. Je me souviens d'être un jour entré à Bangkok dans la maison d'un particulier. Au rez-de-chaussée, sous un plafond de poutres dorées, trônait une idole, ou un démon en colère, plus grand que nature, sculpté dans du bois, recouvert de plusieurs couleurs entrelacées de métal brillant. Lorsque je fus en face de lui, je sus qu'il vivait. Dès que je baissais le regard, perdant courage, il bougeait, en faisant un léger craquement. Puis devenait plus terrible à regarder qu'auparavant. J'étais incapable de partir. Durant une heure, je restais anéanti sous ce regard martelant d'or et de verre. Si je m'analysais consciencieusement avec la sonde la plus fine, je découvrirais peut-être que je crois seulement en lui, en cette puissance au léger craquement qui ne me connaît pas mais me méprise. Il faut que quelque chose survienne, dis-je d'une voix stridente. Et je compris subitement que j'étais désespéré. Oui, dit-il simplement.
La peur peut être, comme dit Bram Van Velde, peut être un moteur. La peur peut être une lumière. Donc je préfère m'attacher à des textes qui me font peur plutôt qu'à des textes qui me font pas peur, parce que la peur est aussi un moteur. Et je crois que chez Yann aussi, je crois qu'il a osé aller à ces limites-là, quoi, où la peur fait partie absolument de l'être humain. on sent qu'il est dépassé lui-même par sa parole, enfin que sa parole le dépasse. Ces pièces ne sont pas, on peut pas en sortir satisfait, quoi. Je crois qu'il s'adresse à ce qui est hors de soi. Comme on dit, on est hors de nous-mêmes, enfin. Pour monter en Senyan, c'est vraiment que le public arrive à une subjectivité totale et à ne pas rester sur l'objectivité, l'objectivité d'un spectacle, et en sorte eux-mêmes modifiés comme à la lecture, quoi. C'est-à-dire ne marchant plus pareil, ne envisageant comme si le spectateur, c'était après le spectacle qu'il se représentait la représentation. C'est-à-dire que c'est à travers sa mémoire du spectacle que la représentation se fait. Mais qu'au moment du spectacle, il n'y ait pas la représentation. Donc c'est un pari assez fou, mais qui est passionnant, parce que on ne sait plus tellement quel sens ça a, le théâtre. Or, Ensenian offre un espace qui est passionnant.
De Dietrich Buxtehude, c'était la Passacaille, Werkverzeichnis 161, au clavecin Kenneth Weiss et Skip Sempe. Buxtehude est si musicien, écrivait Hans Enyan, que le moindre motif devient entre ses mains une forêt enchantée. Et on trouve effectivement des partitions insérées dans les romans de Yann, comme ici le chant de la tristesse du monde, librement interprété à l'orgue par Pierre Pfister.
Décembre 1933. C'est en somme par hasard que j'en suis venu à l'orgue, du moins aux recherches scientifiques sur cet instrument. J'avais dessiné un monument destiné au culte où devait aussi figurer un orgue. Je voulus donc connaître la longueur, la hauteur, le diamètre des tuyaux, pour que mes tailles soient justes. J'achetai quelques manuels qui ne donnaient curieusement pas ces informations. Je consultai le Grand Töpfer, un manuel allemand du 19e siècle qui fait autorité, et y trouvais certes ce que je cherchais, mais me rendis compte qu'il n'existait pas de principe général en ce qui concerne la taille des tuyaux. La confusion, l'anarchie régnait. Personne ne savait quel était le rapport entre les tailles et les sons. On procédait de façon indescriptiblement primitive, dépendant entièrement du hasard. Cette constatation m'entraîna, sans que je l'aie voulu, dans un tourbillon, sur la voie périlleuse de l'expert en orgue. Je fus poussé dans une entreprise désespérée, car dès le début, il était certain que les efforts que je devais fournir dans l'affaire ne pourraient jamais être équitablement récompensés. Je m'attaquai à un travail unique, surhumain. Je me trouvais en face d'un épouvantable néant. Conformément à mon caractère, je décidai de travailler à fond ce domaine, sans laboratoire et sans faire d'expérience, puisque ce qui existait était de toute façon si lamentable qu'il valait mieux éviter de s'y frotter. Je me lançai dans la tentative démente de construire de nouvelles sonorités sur le papier, à partir de mon imagination. Ce fut une victoire de mon exceptionnelle faculté d'abstraction, de cette pratique méditative d'où sont aussi sorties mes architectures monumentales, des symboles d'un sentiment vital différent, basé sur le rythme. J'écris avec tant de peine parce que je suis trop sensible au rythme, et que ceci ne se laisse souvent réaliser que très difficilement, ou pas du tout, dans le langage. Je m'y acharnai jusqu'à la dissolution du moi. Je trouvais des expressions pour des images qui n'ont pas leur équivalent dans la réalité. C'était la tentative sacrilège de créer un monde nouveau, qui s'appuyait certes sur l'existant, mais s'en écartait sur bien des points. René Radrizzani.
Jan et Harms s'intéressaient depuis leur enfance à la musique et particulièrement à la musique pour orgue et aussi à l'instrument. Et Jan restera facteur d'orgue jusqu'à la fin de sa vie. Ce sera même par moments son unique source de revenus. Il a restauré ou construit plus de 100 instruments. Selon Jacques Hamtschin, un fameux musicologue qui enseignait à Bâle et qui était lui-même organiste, Jan est devenu le meilleur connaisseur de l'orgue ancien. L'orgue prendra de plus en plus d'importance dans la vie de Jan, car lorsqu'en 1925, la communauté Ugrino s'écroule, l'idée de créer une société nouvelle, un monde nouveau, disparaît, mais Jan va se rabattre, il va essayer de réaliser cette idée dans deux domaines. D'une part, dans son œuvre littéraire, et surtout dans ses deux grands romans, Perugia et Fleuve sans rive, et d'autre part, dans l'orgue. Car pour lui, l'orgue est une forêt, est un monde, et l'image même de l'univers.
Pierre Pfister, facteur d'orgue.
Il faut bien sûr resituer Jan en tant que facteur d'orgue à l'époque et en Allemagne. Le tout début du siècle voit en fait l'émergence d'un courant de retour aux sources historiques de la facture d'orgue. C'est ce qu'on appelle l'orgue réforme, et dont les principaux instigateurs sont Albert Schweitzer en Alsace, Émile Roup. Ces personnages vont donc lancer un retour, entre guillemets, aux sources, à la fois de la musique et de la facture d'orgue. Mais c'est vrai que jusque dans les années 20, tout ça est encore très flou et très influencé par le 19e. Et les orgues qui sont construits, par exemple, sous la direction de Albert Schweitzer, sont en fait un mélange de ce qu'il a pu connaître sur les orgues Silbermann en Alsace et ce qu'il a charmé sur les orgues Cavaillé-Coll à Paris. Donc, c'est vrai que l'orgue réforme essaye de faire une espèce de synthèse de deux mondes presque inconciliables, et on se retrouve avec des instruments assez curieux, qui ont des couleurs qui font référence au passé et qu'on voit se mélanger à quelque chose de complètement romantique et voire contemporain. Donc, alors ça, Jan ne s'inscrit pas du tout dans l'orgue réforme, justement. C'est donc une première originalité, c'est qu'il s'inscrit dans ce qu'on appellera plus tard l'orgue Bewegung, c'est-à-dire un essai de retour à une tradition de facture, c'est-à-dire non seulement de retrouver les sonorités d'une époque, non seulement de revisiter la littérature et la musique de l'époque, mais de retrouver les traditions de savoir-faire. Et ça, sans compromis, c'est-à-dire sans vouloir refaire un orgue neuf d'après un mélange de données anciennes. Et ça, c'est une démarche nouvelle. Jan était vraiment le premier, avec le fameux instrument à Saint-Jacobi à Hambourg, était vraiment le premier à dire « voici un instrument, comme on n'en construit plus, et qui s'inscrit complètement à l'opposé de la facture qui était celle de l'époque en Allemagne, c'est-à-dire une facture très industrialisée, très normalisé, et vraiment à l'opposé de ce que pouvait être la facture baroque. Donc Jan est le premier à dire, voilà des témoins de la Renaissance ou de l'époque baroque, qui, avec des moyens techniques certainement moindres, arrivent à un résultat esthétique et musical nettement supérieur. Et Jan est le premier qui remet ses instruments en état, souvent avec très peu de moyens financiers. Il passe beaucoup de temps à remettre ses instruments en état, et notamment à Hambourg, il organise des concerts. Et il fait non seulement voir à tout le monde musical de l'époque que ces orgues historiques, ils ont une cohérence, il y a là un savoir-faire énorme qui est à la base de ces instruments-là, qu'on a complètement oublié. On est complètement déconnecté. À la fin du 19e, début du 20e siècle, on est complètement déconnecté de toutes ces valeurs qui faisaient une espèce de magie sonore à travers ces instruments.
Décembre 1933. Au sujet de mes orgues, je peux également dire que si j'avais encore l'argent qu'elles m'ont fait jeter par la fenêtre pour les paroisses et pour l'État, je pourrais vivre des intérêts seuls. Pour moi-même, je n'ai pas sauvé un pfennig dans tout cela. En 1919, je flânais un jour avec Harms à travers les rues de Hambourg. Entré par hasard dans la Jakobikirche, nous avons vu, à notre grand étonnement, un orgue complètement délabré. Le marguillier nous dit qu'il avait été partiellement fondu pendant la guerre et allait être enlevé pour faire place à un autre. Harms s'installa à l'instrument et joua. L'impression fut bouleversante. Nous avons immédiatement rédigé un pamphlet à l'attention du conseil paroissial et alarmé le Sénat. Il y eut une avalanche d'articles dans les journaux. On nous permit d'utiliser gratuitement l'église pour y donner des concerts et nous autorisa à restaurer l'orgue, à nos frais. C'est ainsi que nous avons sauvé le seul grand orgue ancien de l'Allemagne du Nord encore existant. La restauration fut financée avec notre fonds pour les œuvres d'art menacées. On constata d'abord qu'aucun facteur d'orgue ne voulait se lancer dans cette aventure. Tous la considéraient comme dénuée d'intérêt, insignifiante ou démente. Je dus moi-même dénicher une maison et l'instruire pour cette tâche. Par hasard, je rencontrai M. Kemper, de la maison Kemper et fils, que bientôt je ne pus plus voir sans avoir des accès de rage. Kemper ne possédait rien, ni atelier, ni outils, mais il me paraissait sympathique. Je dus donc d'abord monter sa firme, ce que je fis à la condition qu'on exécute sans réserve ce que nous exigions, puisque nous fournissions l'argent. Je négligeai de faire un contrat par écrit. D'abord tout alla bien, mais bientôt ça devint terrible. Dans cette boutique, on faisait par principe le contraire de ce que je demandais, et pourtant les moteurs électriques et tout le reste m'appartenaient. Si seulement j'avais fondé ma propre maison à l'époque, je serais maintenant cousu d'or. Car plus tard, avec des prix deux fois plus élevés que ceux que j'établissais alors, j'ai fait vaciller tous les grands industriels de l'orgue, simplement parce que, pour la première fois depuis longtemps, je construisais des instruments qui sonnaient.
Si on resitue ça dans le contexte de l'époque, on a une facture très industrialisée qui favorise au niveau de la couleur sonore l'égalité absolue, l'égalité du timbre, l'égalité de l'accord, l'égalité de l'attaque. Tous ces paramètres doivent être absolument maîtrisés et doivent être également répartis sur l'ensemble des jeux d'un instrument. Je m'explique peut-être. Pour maîtriser la couleur sonore d'un tuyau d'orgue, on dispose de plusieurs facteurs. D'une part, le diamètre du tuyau. Plus un tuyau est large, plus le son sera rond. Plus un tuyau est étroit, plus il sera incisif et tranchant. On a au niveau de la bouche, donc là où le son se forme, on a aussi ce qu'on appelle la largeur de bouche, qui est en rapport avec le diamètre. et qui détermine l'émission d'harmonique de ce même son. Et puis, bien sûr, on a au niveau du pied, du tuyau, on peut donner plus ou moins d'air au tuyau, donc plus ou moins de pression, ce qui change bien sûr la force. La hauteur de bouche, je parlais tout à l'heure de la largeur, la hauteur de bouche est aussi très importante puisque c'est elle qui détermine le caractère de l'attaque du son. Et Yann est le premier à dire, avec des théories très mathématiques et physiques, il est le premier à dire, attention, il n'y a pas que le son en lui-même qui compte, mais l'attaque est déterminante pour la reconnaissance d'un son. Et il fait notamment pas mal d'expériences à ce sujet-là, et il prouve qu'un son entendu en tant que tel, mais dépourvu de son attaque initiale, n'est pas très identifiable d'autres sons qui lui ressemblent. Alors qu'au contraire, quand on remet l'attaque qui correspond à ce son, tout devient clair et identifiable. Et ça, c'est effectivement un facteur qu'on tend à gommer au XIXe siècle. On veut réduire absolument toutes les attaques, on veut une espèce d'homogénéité du son et d'égalité. Yann s'inscrit contre cela, il s'inscrit aussi contre les normes en facture d'orgue qui ont vu le jour au XIXe siècle en Allemagne, notamment celles de Töpfer, qui font justement coïncider mathématiquement la progression des tailles avec la progression des largeurs de bouche, avec la progression des hauteurs de bouche, avec la progression de la pression, pour avoir de la première note la plus grave à la plus aiguë d'un même registre, une égalité constante de timbre, d'attaque et de sonorité. Et Yann est complètement opposé à cela, parce qu'il a vu dans des orgues historiques, eh bien, que tous ces paramètres peuvent être traités indépendamment. On peut avoir une sonorité, par exemple, très flûtée dans les basses, plus mordante dans les aigus, avec au contraire une progression de bouche tout à fait indépendante, par exemple une émission d'harmonique pour ce même registre que je cite à titre d'exemple, dans les basses plus chargées en harmonique et dans les aigus nettement moins, je dis. Il en va de même pour la hauteur de bouche, c'est-à-dire pour l'attaque, des attaques peut-être plus fortes dans l'aigu que dans les basses, etc. Donc, on pouvait jouer sur tous les paramètres à la fois au sein d'un seul registre. Et donc, on pouvait avoir une couleur changeante, des attaques changeantes sur une seule famille de sonorités, par exemple. Et ça, c'était très intéressant parce que ça voulait dire que le timbre de l'orgue ou que le caractère de l'orgue est infiniment plus riche que ce que voulaient en dire tous les traités et tous les comptes rendus scientifiques de l'époque.
Décembre 1933. Pour faire connaître notre travail de restauration et pour présenter l'ensemble des problèmes qu'il posait, nous avons organisé en 1925 un congrès d'organistes. Les experts et les organistes vinrent de toute l'Allemagne, tous des adversaires. Il était prévu que Straube ferait le discours d'introduction puis que moi-même et Harms prendrions la parole. Ce programme irrita. Quel genre de congrès était-ce donc où seuls trois orateurs interviendraient? Or, nous voulions justement éviter cette manie de discourir qui sévit lors des congrès ordinaires et réellement atteindre quelque chose. Nous devions d'ailleurs vraiment obtenir un résultat. Tous les tuyaux en étain de l'instrument, dont le matériau seul valait 32 000 marks, avaient été fondus durant la guerre. Le principal de façade avait disparu. Cela s'annonçait mal. Straube se déroba. À sa place, c'est Ramine qui salua les participants. Il s'en tira à merveille. Puis je me rendis sur l'estrade pour le premier exposé. J'avais préparé, pour un public neutre, une importante conférence avec projection de diapositives. Sentant l'ambiance hostile, je demandai à mes amis de s'installer aux premières rangées, pour les avoir devant mes yeux. L'absence de Straube avait naturellement fait courir des bruits. Lorsque, depuis l'estrade, je vis la foule des participants en face de moi, je compris que seul un triomphe ou une catastrophe était possible. Durant la minute dont je disposais, je décidai de tenir, en utilisant mes diapositives, une toute autre conférence que celle que j'avais préparée. Je commençai par rester un moment silencieux. Puis je fis apparaître l'image prévue pour la fin, les armoiries de Schnitger, où figurent un bras tenant un compas, un chêne et trois épis de blé. Je restai encore silencieux pendant un certain temps. Puis je fis mon commentaire. Ce bras sortant d'un nuage est l'esprit avec l'aide duquel nous devons construire un orgue. L'arbre signifie qu'il faut se servir de bois de chêne, et les trois épis indiquent que nous avons besoin de pain pour mener à bien notre travail. Puis, je fonçai comme un taureau. Je parlais durant 2 heures et quart. Ce fut un triomphe. Les acclamations étaient frénétiques. La défaite de nos adversaires, éclatante.
Donc, Yann devient un inconditionnel du retour aux sources. Seulement, surtout au début, disons jusque dans les années 30, son problème c'est surtout comment faire, puisqu'on a perdu toute trace de savoir-faire, puisque de plus en plus les petits facteurs ont été contraints, disons les petits facteurs ruraux qui maintenaient encore à peu près une certaine tradition, était vraiment contraint à abandonner la profession au profit de vraiment de grandes entreprises, de grandes usines d'orgues qui s'installaient en Allemagne à l'époque. Donc un savoir-faire perdu, et pourtant des instruments témoins justement d'un savoir-faire énorme. Alors Yann va un peu compenser ce manque par une espèce, disons, de propension à la spéculation mathématique. et il compense un peu toutes les lacunes qu'on a pu avoir à l'époque, dont on ne se rend plus vraiment compte maintenant, puisqu'on a fait quand même de sérieux pas en avant et en arrière, je dirais. Donc, il compense en élaborant des théories à la fois philosophiques et mathématiques autour de l'orgue. Il commence à théoriser sa notion de mensuration variable, donc où la taille, la pression, la largeur de bouche, hauteur de bouche, progressent d'une façon totalement indépendante les unes des autres. Alors, ça ne lui suffit pas de théoriser cela d'une façon spéculative et mathématique, et il le fait mieux que quiconque à l'époque, donc c'est vraiment un scientifique hors pair aussi à ce niveau-là. Mais il y ajoute tout un côté philosophique. Et par exemple, les classifications des tuyaux, telles qu'il les trouve dans les orgues baroques, il les analyse non seulement d'un point de vue mathématique, mais aussi il les classe en masculin, féminin. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Il idéalise quelque part une espèce d'union cosmique de l'être dans cet instrument-là qu'est l'orgue pour lui.
Décembre 1933. Les 6 premiers mois de mes recherches me permirent de faire une découverte révolutionnaire, qui est entièrement mon mérite. Le caractère triple des sons. Il existe en acoustique une qualité auditive qui n'est pas mesurable. Le son ne comporte pas seulement les qualités de couleur, c'est-à-dire de fréquence et de composition des harmoniques, et d'intensité, mais encore celle d'ampleur sonore. Cette expression se trouve dans Töpfer. Je l'ai par la suite remplacée par le terme d'auto-accumulation. Ce n'est pas une valeur tactile, mais elle est accessible à la mathématisation. Il existe aussi une accumulation due à l'espace environnant. La chose se complique du fait que les tuyaux sont des corps sonores, et que leur auto-accumulation doit donc être perçue comme une modification de l'accumulation spatiale. Avec ces deux types d'accumulation, je parvins à définir des sons masculins et féminins. Il est vrai que ces deux types n'existent jamais d'une manière pure, parce qu'il n'y a pas dans la nature d'éléments absolument purs, rien d'exclusivement masculin ou féminin, mais seulement une infinité de degrés intermédiaires. C'est pareil pour les sons. Cela me permit de créer des mensurations rythmiques. Je savais maintenant qu'il existe des séries de dimensions formant des proportions harmoniques, rendues perceptibles par les sons. La construction d'un orgue est un processus rythmique qui aboutit à une pyramide sonore. Pierre Pfister, facteur d'orgue.
Donc je parle là plutôt de projets d'orgue neuf qu'il avait établi par la suite, et notamment les projets qui nous ont été livrés, les projets de ces 11 orgues pour les chapelles d'Ougrino. Donc il avait le projet d'un espèce d'immense lieu de culte avec plusieurs églises, des cryptes, enfin des architectures absolument incroyables, et il y avait là un projet de 11 instruments, chacun dédié à un lieu différent. c'est complètement étonnant de voir à la fois une concrétisation de son travail de recherche au niveau mathématique sur les orgues anciens, et en même temps il y ajoute sa propre conception philosophique de l'orgue, ce qui fait qu'on n'est plus en rapport avec un orgue historique. Il ne s'agit pas, comme on le ferait aujourd'hui, d'une copie d'un instrument historique, c'est plus du tout cela. On a un instrument qui est très inspiré de tout ce qu'on peut trouver au XVIIe, XVIIIe siècle en Allemagne, et qui en même temps s'en éloigne du côté d'une philosophie qui serait presque à justifier en permanence chez Jan. Il se réfère beaucoup à l'orgue antique. Je crois que c'est pas pour rien, c'est aussi en référence à certaines philosophies antiques. On peut dire que Jan est un néoplatonicien ou un néopythagoricien, si on voit ça du côté de ses mathématiques, mais je crois plutôt un néoplatonicien. Et ce qui l'inscrit vraiment complètement à côté ou en marge de la chrétienté. Et c'est pas étonnant qu'il se soit fait vraiment des ennemis considérables, tant au niveau de l'Église qu'au niveau de l'État. Jan a eu plus d'un détracteur en Allemagne et ailleurs qui l'ont empêché de travailler. En tout cas, il a eu beaucoup de mal à travailler. Toute sa vie, il a travaillé autour d'orgues de la Renaissance et de l'époque baroque. Et ces instruments étaient en fait des héritiers d'un paganisme, puisque au Moyen-Âge, l'orgue est hérité de la Grèce antique via Rome, et c'est un orgue d'apparat, un orgue complètement profane, et il y a donc forcément aussi, il faut le reconnaître, une facture d'orgue et un savoir-faire complètement profane, et qui va être que petit à petit récupéré par l'Église. Et même si l'orgue en tant que tel est récupéré par l'Église, eh bien les facteurs d'orgue, eux, se situent quand même encore très longtemps en dehors de l'Église et transmettent un savoir-faire que l'Église ne maîtrisera que très peu. Et je crois que c'est surtout ça qui fascine Jan, cet état d'avant la chrétienté qui est finalement visible dans ces instruments historiques. Et je crois que plus que toutes les progressions de taille ou de mesure qu'il a pu chercher, établir autour de ça, il y a quelque chose de complètement païen, tout simplement parce qu'il y a là une espèce de résumé cosmique du monde où l'âme et le corps ne sont pas divisés en bien et mal, comme le fera la chrétienté pour tout ce qu'elle touche. Et ça, c'est fascinant. C'est fascinant autant pour Jan que pour moi aujourd'hui de voir ça dans un héritage artisanal. De voir à quel point un savoir-faire, une transmission artisanale, peut finalement tracer une voie complètement à part d'un courant aussi monstrueux au sens d'énorme, que la chrétienté. Jan est complètement fasciné par ça. Évidemment, ça explique aussi le rejet quasi total d'une Allemagne non seulement chrétienne, mais aussi nationaliste à l'époque. On avait vraiment en Jan trouver une espèce d'antéchrist, il faut bien le dire. Et c'est pas étonnant que Jan soit très vite tombé dans l'oubli et qu'il le soit toujours.
19 octobre 1933. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps pour savoir ce qui est au fond le signe distinctif de l'homme créateur. Et j'en reviens toujours à la même idée. C'est sa faculté de persévérer dans une idée une fois qu'il l'a conçue. Nous méditons et mesurons beaucoup trop peu ce que cela signifie. L'œuvre du génie est monotone. Elle tourne au fond autour d'un petit nombre d'idées qu'elle reprend constamment sous des formes toujours nouvelles. Voilà ce qui est décisif. Être capable de persévérer, de se concentrer au milieu de l'agitation. Seuls quelques-uns le peuvent. C'est la marque du génie.
Pour lui, il n'y a pas de progrès en facture d'orgue. Ça n'existe pas. Et en art, en général, il n'y a pas de progrès possible. Il parle sans arrêt de loi éternelle de la création. Donc pour lui, il y a une espèce d'îlot où on est en contact avec les lois de la création et où on peut créer d'une façon absolue. Et tout ce qui est en dehors de Dieu, tout simplement, ou en dehors du Créateur. Et donc, tout ce qui est en dehors n'est pas création, tout simplement. Donc, il est très, très critique par rapport à tous ces apports soi-disant progressistes du XIXe siècle. Et pourtant, il défend une conception qui est celle du facteur d'orgue créateur. Et ça, il le revendique, mais pas avec une notion de progrès, avec une notion de tradition, disons, revisitée. Pour lui, l'orgue tel que l'a connu la Renaissance ou l'époque baroque est le sommet. Et le sommet de tous les moyens artisanaux les plus maîtrisés pour avoir une palette sonore la plus riche possible. Partant de là, il dit, très bien, prenons compte de tout cela, travaillons là-dessus, essayons de connaître toutes ces techniques et tout ce savoir-faire le mieux possible, mais ne nous faisons pas d'illusions, de toute façon, on ne retrouvera jamais le sens qu'avait cela à l'époque. Donc il est conscient de cette fatalité. Et en cela, il est éminemment précurseur par rapport à nos jours même, où on fait sans arrêt des copies historiques, croyant qu'à travers cela, on puisse retrouver le sens de l'époque. Yann n'est pas dupe. Il sait très bien qu'on ne retrouve pas le sens en copiant ce qu'il y avait il y a 300 ans. Donc, il dit, essayons de connaître au maximum cette palette éminemment riche des instruments de l'époque. Et c'est vrai que c'est une palette 100 fois plus riche que ce que nous propose l'orgue industriel en Allemagne à l'époque. Il a de quoi s'émerveiller à l'époque. Mais, dit Yann, mais restons créateurs. Créons d'autres instruments. Et lui, pour sa part, il s'inspire de progressions mathématiques, de nombres sacrés, de rythmes sacrés, pour construire ses instruments, mais toujours en se référant à des choses qui ont été faites. Donc la notion de progrès devient très relative ou du moins s'inscrit dans une tradition. Je crois que même s'il avait eu tous les moyens possibles pour reconstruire un orgue comme Schnitger, par exemple, ou comme Pretorius, il lui aurait manqué quelque chose. Il y avait ce côté créateur, ce côté d'organiser un macrocosme dans un microcosme, qui était, je crois, vraiment cher à Yann, de pouvoir à la fois se retrouver soi-même, c'est-à-dire son monde mental, et à la fois retrouver le dehors, donc le dehors et le dedans, de retrouver tout ça dans un instrument et dans la musique, c'était certainement faire preuve de ce qu'il y a de plus haut au niveau de la création pour Yann. Yann s'approprie les sonorités historiques dans ses projets pour Ogrino, par exemple, et les développe, en exagère toutes les caractéristiques. Ce qui fait un instrument non seulement très riche en couleurs, mais presque caricatural. Je pense que cet excès, il le cherchait. Il le cherchait non seulement pour exacerber ce qui lui plaisait dans l'instrument historique, mais je pense aussi pour s'opposer encore plus à ce qui se faisait à l'époque.
« 19 décembre 1933.